This is Radio Free Europe. 9
minutos en Colombia.
وحاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبي.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
O Brasil quer se quinto.
Turquia, fotora, burlava,
Россия. United States of America.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui sur le sommet des Amériques. Anthony Bélanger nous en parlera. Il est aux commandes de partout ailleurs jusqu'à la fin de la semaine. Correspondance d'Omar Waman sur le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie. Reportage de Leïla Berato en Algérie sur un incubateur de start-up. Mathieu Culeron nous parlera de la sortie du film Lost River. L'édito d'Arnaud Leparmentier sera consacré à cette pratique très ancienne du voyage à Moscou, mais tout de suite, les maîtres du monde.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Alors on va la déployer, la carte du monde, deux mégapuissances, la Chine et les États-Unis. On pourrait s'arrêter là et commencer à discuter avec notre invité, mais ce serait injuste de ne pas mentionner l'espace européen, à bout de souffle, la Russie, isolée, et de grands pays émergents qui n'ont pas encore totalement émergé. Bonsoir Jean-Louis Beffa.
Bonsoir.
C'est vous le cartographe, c'est vous qui décrivez ce monde dans votre dernier livre, Les clés de la puissance aux éditions du Seuil. Merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes président d'honneur de la compagnie Saint-Gobain. Avant d'entrer dans les détails, vous parlez dans ce livre, dans son introduction, d'un nouvel âge de la mondialisation qui caractériserait les années là, qu'on est en train de vivre. Comment décrire cette phase-là ?
Je crois qu'on est en train de terminer un âge, au fond, qui a démarré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel la Pax Americana réglait tout, à peu près. C'est-à-dire que sur le plan économique, il fallait suivre les règles de type américaine. Les États devaient se comporter, comme le disait le FMI, la Banque mondiale. Et enfin, donc, les États-Unis assumaient un leadership qui était à la fois militaire et économique et complet. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus équilibré. Mais dans ce monde plus équilibré, deux puissances émergent véritablement. L'une qui continue à bien se défendre, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que les États-Unis, finalement, c'est faux de ne pas croire qu'ils gardent beaucoup d'arguments. Mais je pense qu'il faut bien voir que la Chine est en train de progresser constamment. Et après, même de mon point de vue, c'est la Chine qui petit à petit grignote les États-Unis.
Alors on va entrer dans le duopole, mais on est d'accord à ce stade, Jean-Louis Beffa, que c'est précisément ce duopole sino-américain qui caractérise le moment de la mondialisation dans lequel on se trouve.
Oui, et surtout avec des valeurs différentes. C'est-à-dire que, par exemple, on a cru que les valeurs de type occidental, en un mot, celles qui viennent de la Révolution française, celles qui viennent des valeurs chrétiennes et des Lumières, avaient une valeur mondiale. On disait les droits de l'homme, c'est mondial. Je ne le crois pas. Je crois que le monde asiatique en particulier a des valeurs qui sont ce qu'on appelle les valeurs confucéennes, qui sont d'une nature complètement différente. Dans les valeurs confucéennes, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté de l'individu, c'est une autre méthode. Le chef doit, je dirais, diriger. Ceux qui sont sous ses ordres doivent lui obéir, et lui obéir d'une façon disciplinée, en charge, par contre, à lui de sauver les autres, c'est-à-dire de veiller à leur bien-être. Donc c'est un équilibre totalement différent.
Sur le plan économique, quel est le ressort ou quels sont les ressorts de la puissance chinoise aujourd'hui ? Là, on entre, ça y est, hein, on entre de plein pied dans le duopole. Chine d'abord, États-Unis
ensuite.
Écoutez,
je crois que les ressorts actuels deviennent fondamentalement des ressorts nationaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entreprises qui se battent avec une règle du jeu mondiale, on est désormais une bataille entre États, à partir des champions nationaux. Et donc on est là dans une règle du jeu complètement différente, parce que les règles du jeu classiques du monde du capitalisme occidental, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ne comptent plus.
C'est-à-dire que, et je vais employer volontairement une expression absolument contradictoire, c'est une forme de protectionnisme qui a malgré tout une capacité de projection.
Oui, c'est d'abord
c'est ça,
c'est une bonne vision de l'avenir. Ce que j'appellerais ça, c'est plutôt un nationalisme maîtrisé. C'est-à-dire que le ressort, c'est le nationalisme. Maîtrisé, pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas à dominer la planète. Il cherche à bien faire comprendre aux Américains que l'Asie, en particulier la mer de Chine, ça c'est leur zone de domination. Et les Américains, eh bien désormais, il ne faut pas qu'ils y touchent.
Le ressort de la puissance chinoise aujourd'hui est-il aussi militaire ?
Il le devient de plus en plus. Je crois qu'on sait que les Chinois travaillent, sinon ont déjà, par exemple, un porte-avions nucléaire. On voit qu'ils ont envoyé quand même des fusées jusque sur la Lune. On voit également que leurs satellites sont des choses tout à fait efficaces. Donc, du côté militaire, les Chinois sont en train, technologiquement, d'être avancés. Mmh. Alors, au total, les Américains, bien entendu, sont technologiquement plus avancés.
On va y venir aux États-Unis. Restons
Mais
en Chine.
Que voit-on quand même vis-à-vis de la Chine ? C'est-à-dire que les États-Unis sont techniquement plus avancés, mais se replient chez eux, tandis que la Chine, elle, commence à sortir de Chine.
Hmm. Le pays semble, vous le disiez d'un mot, expliquez-le nous, au tout début de sa puissance. C'est au tout début du déploiement de sa pleine puissance. Il y aura peut-être, on n'est pas en train de deviner l'avenir, mais il y aura peut-être dans quelques décennies une hégémonie chinoise.
Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que ce que recherche la Chine, si je veux faire une analogie, c'est le congrès de Vienne. C'est-à-dire, la Chine veut en fait un équilibre planétaire dans lequel surtout on ne vienne pas lui dire ce qu'elle a à faire. Et elle-même n'a pas l'intention de dicter aux autres sa conduite. Donc c'est un équilibre, comme on a laissé l'équilibre entre l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, et ça a duré assez longtemps.
Alors, regardons maintenant du côté des États-Unis. Même question que pour la Chine. Quel est aujourd'hui, d'après vous, le ressort principal de la puissance américaine, Jean-Louis Beffa ? Cette hégémonie n'est pas nouvelle, hein ? Vous le rappeliez. La Pax Americana, le XXe siècle, enfin, vous décriviez tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la puissance américaine aujourd'hui ?
Alors, quand on prend par exemple les 10 plus grandes entreprises mondiales, secteur par secteur, on voit désormais très souvent que dans les 10, il y a 2-3 Chinois, ce qui n'existait pas avant. Maintenant, si on cherche quel est véritablement le ressort de la force américaine qui reste, c'est l'innovation technologique. Le système universitaire est le plus brillant. Le système universitaire crée en permanence ce flux qu'on appelle de start-up. Ces start-up sont en plus centrées sur Internet et qu'on voit apparaître des sociétés complètement dominantes par rapport à l'Europe, les Google, les Facebook, les Twitter. Simplement, attention, tout ça s'arrête aux frontières de la Chine. Ces sociétés ne pénètrent pas la Chine. Là-bas, vous n'avez pas WhatsApp, vous avez WeChat, vous avez Alibaba, vous avez Baidu, vous avez Lenovo. Et par conséquent, la Chine a réussi, même dans le domaine où la planète est complètement dominée par les États-Unis, à elle se tenir à côté. Peut-être avec des sociétés moins bien, mais des sociétés qui sont adaptées au système chinois.
Vous dites que les États-Unis se sont recentrés, entre guillemets, sur leurs fondamentaux, comme on dit en sport. Les fondamentaux, c'est donc, à vous entendre, l'intelligence et l'innovation technologique.
Oui, avec un certain nombre de conséquences quand même qu'il faut se rappeler. C'est un pays étonnamment inégalitaire. Comment cette inégalité peut durer ? C'est qu'en permanence, il y a le rêve américain et donc c'est nourri de l'immigration. C'est-à-dire d'une série de personnes qui, pour participer au dynamisme américain, acceptent au départ des salaires très bas, etc. Donc c'est une société complètement en mouvement, si on va employer un terme économique, on dirait schumpeterienne, dans lequel la destruction créatrice est en permanence là. Et donc ça, c'est spécifiquement américain. Pour faire simple, c'est un capitalisme pur et dur.
Hypercapitalisme, dites-vous, pour caractériser les États-Unis, décrivez-le, cet hypercapitalisme.
Mais ça signifie que bien dans les sociétés, c'est l'actionnaire qui a tous les droits, c'est les riches qui doivent payer des impôts qui restent relativement bas. Non, ce n'est pas vrai qu'il faut que tout le monde ait la sécurité sociale. Vous avez donc une société quand même extrêmement dure, extrêmement inégale, mais une société pour laquelle les gens gardent encore l'espoir, bien qu'ils vont, par leur seul talent, arriver au sommet de la pyramide.
Alors Jean-Louis Beffa, quelles sont maintenant les relations de couple entre États-Unis et Chine? Quelles sont les relations à l'intérieur du duopole? Est-ce qu'il y a un destin lié de ces deux superpuissances? Est-ce qu'il y en a une des deux qui a malgré tout la main ou un petit avantage? Comment ça se passe?
Je crois fondamentalement qu'en permanence, ils se testent, en permanence, ils cherchent un équilibre. Il y en a un qui, notamment la Chine, pousse à un moment un avantage. Il voit jusqu'où il peut aller trop loin. Après, il revient en arrière. Et donc, c'est un équilibre dans lequel, comme je l'ai dit, la Chine petit à petit grignote les positions américaines.
Mais vous dites qu'il est aujourd'hui impossible pour les États-Unis, vous l'écrivez, de se passer des importations chinoises. Absolument impensable.
Je le pense et d'autre part, je pense que ce n'est pas l'intérêt. Également, la Chine a le plus grand excédent de devises. La Chine finance le déficit américain, etc., etc. Donc il y a une interconnexion, mais une interaction dans une sorte de morosité réaliste.
Expliquez-nous ça, je ne connaissais pas cet état d'esprit.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enthousiasme à collaborer, il n'y a aucune idéologie commune, mais il y a le réalisme du respect.
Alors, à l'est, à l'ouest, au sud, rien de nouveau, hein?
Non, c'est-à-dire ce qui est aussi important les cinq dernières années par rapport à ce qu'on a pu lire parfois, il n'y a pas d'émergence d'une autre puissance au niveau de ce qu'on a vu dans l'émergence chinoise. En un mot, deux grands pays qui étaient quand même, si je puis dire, la tête de la deuxième division ont déçu. Il s'agit de l'Inde d'un côté, il s'agit du Brésil de l'autre. Le Japon résiste à la japonaise, c'est-à-dire en restant bien concentré sur lui-même. Je pense que aussi la Russie a ses objectifs, mais ses objectifs, là encore, c'est priorité aux militaires, pas priorité à une hégémonie économique, et puis beaucoup moins de coopération avec l'Europe, c'est ce qu'on a vu en Ukraine. Quant à l'Afrique, l'Afrique se développe toute, mais aucun pays n'est en train d'émerger au niveau chinois. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Égypte, si on prend les trois plus grandes puissances.
Et puis il y a le gigantesque désert européen.
Alors, c'est pas un désert européen. Les Européens ont énormément de qualité.
C'est pas la partie de votre livre qui fait le plus rêver, hein?
Non. Dans mon livre, ce que je dis, c'est que les Européens n'ont pas encore, avec réalisme, fait les gestes pour essayer de tirer de ce monde qui change le meilleur. Alors, premièrement, je crois qu'il est impossible de le faire à 29. Je crois qu'il faut laisser les Anglais avoir leur destin à part, c'est-à-dire de très bien servir par la cité de Londres, qui maintient tout à fait un potentiel formidable, les riches de la planète. Mais il n'y a pas d'intérêt commun entre Londres d'un côté et l'Europe continentale de l'autre. L'Europe continentale, c'est d'abord et avant tout un accord franco-allemand. Les Allemands, je crois, ne cherchent pas à être tout seuls. Je crois qu'ils voudraient faire quelque chose autour d'eux, mais ou avec eux, du côté des Français, du côté des Italiens, des Espagnols, je rajouterais volontiers les Polonais. Pourquoi ça ne se fait pas?
Parce que
les Allemands attendent que la France se réforme. Et que tant que la France ne se réforme pas, les Allemands ne pensent pas qu'ils peuvent bâtir quelque chose de solide. Ils attendent des gages de sérieux de notre pays.
Alors même si je souffre en prononçant cette phrase, oublions la France quelques instants, l'Europe, gigantesque marché unifié, population éduquée, démocratie avancée, sur le papier, ça fait quand même un certain nombre d'atouts qui fait qu'il devrait y avoir trois pôles dans votre livre. Pas simplement le duopole sino-américain, mais il devrait y avoir évidemment un tiers pour l'Europe. Et pourtant, non. C'est incompréhensible.
Parce qu'il n'y a pas de réalisme et de nationalisme européen. Je vous donne un exemple. Dans le domaine des entreprises de téléphone, il y en a trois grandes aux États-Unis. Et en Europe, vous en avez 15. Et chaque fois qu'il y en a qui veulent se rapprocher, vous avez la commission de Bruxelles avec sa philosophie de la concurrence à outrance, c'est-à-dire ils ont peur de ne pas assez bien défendre le consommateur alors qu'il est urgent de défendre le producteur. Par conséquent, nous payons très cher une sorte de philosophie qui est centrée sur l'Europe, qui regarde son nombril au lieu de regarder le vaste monde.
Donc on a une philosophie économique tordue en Europe et pas de philosophie politique.
On a une philosophie économique qui est centrée sur nous-mêmes sans nous rendre compte que la planète a changé et que c'est un défi et que dans ce défi, il faut, disons, appuyer les champions nationaux, etc., etc. Et que par conséquent, il faut que les États aient le droit d'intervenir et le droit de faire davantage de choses.
Vous en parlez avec moins d'enthousiasme que de la Chine et des États-Unis, hein.
Parce que je trouve que, franchement, autant j'ai été un homme enthousiaste quand j'ai vu faire l'euro, quand j'ai vu l'action de Delors, quel bilan faites-vous de la commission Barroso et du début de la commission Juncker ? Vous êtes enthousiaste ?
Pas vraiment, non. Vous aviez parlé de quoi tout à l'heure ? De morosité perplexe ou de je ne sais plus exactement quel était le...
Non, je disais de morosité maîtrisée.
Voilà,
je
de pense, morosité maîtrisée.
Je pense qu'aujourd'hui,
voilà
nous avons la morosité, mais nous n'avons pas la maîtrise.
Et ben, en tout cas, merci infiniment Jean-Louis Beffa d'avoir été au micro de France Inter. Les clés de la puissance, c'est publié aux éditions du Seuil. Ça se lit comme un conte moderne de la mondialisation. La référence du livre, bien entendu, sur le site internet de l'émission. À suivre, Yarmouk en Syrie avec Omar Waman, et tout de suite Triade God, 18h32.
扑街咯，扑街咯，你扑街咯，扑你个臭街死靓仔，我大冇细，肉身肉死，我就系推到丢血你啊，你阿妈唔教你，你阿妈咩，定你个肺，丢你老母，吐气，扑街咯，扑街咯，你扑街咯。
Il est 18h34, un jour dans le monde sur France Inter, direction la Syrie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde. Sur France Inter.
La situation absolument dramatique, désespérée, dit l'ONU à l'instant, du camp de Yarmouk en Syrie. Explication de notre correspondant à Beyrouth, Omar Waman, sur ce lieu qui fut longtemps une ville majuscule pour les Palestiniens.
Le camp de Yarmouk symbolise à lui seul le drame du peuple palestinien. Créé en 1957, à 8 km à peine du centre-ville de Damas, il était considéré, il n'y a pas si longtemps, comme la capitale de la diaspora palestinienne. En quelques années, il était devenu l'un des camps les plus grands du Moyen-Orient où près de 160 000 personnes y étaient entassées dans l'une des zones les plus densément peuplées de Syrie. Yarmouk, avec ses mosquées, ses écoles et ses bâtiments publics, était géré par le ministère des Affaires sociales et du Travail syrien, mais aussi par l'ONU, qui administrait les domaines de la santé et de l'éducation. Résultat, le taux d'alphabétisation à Yarmouk était l'un des plus élevés parmi les camps de réfugiés du Moyen-Orient. Les Palestiniens en Syrie avaient quasiment les mêmes droits que les Syriens. Un phénomène rare dans le monde arabe où ils sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais c'était avant la révolution syrienne qui a changé la donne. Au début, les Palestiniens de Yarmouk ont voulu afficher une neutralité qui a vite volé en éclats. Après l'entrée dans le camp des premiers rebelles, d'abord modérés puis radicaux, ce qui a entraîné des bombardements de l'aviation syrienne accompagnés de l'un des sièges les plus impitoyables de l'histoire moderne, le camp de Yarmouk est littéralement coupé du monde depuis 18 mois, totalement bouclé par les forces loyales au régime de Bachar el-Assad qui utilise la faim comme arme de guerre. Les premiers cas de mort de faim ont été rapportés en décembre 2013. On en compterait plus de 200 selon un rapport d'Amnesty International. Aujourd'hui, les habitants ne sont plus que 15 000, dont près de 3 500 enfants vivent dans un champ de ruines, sont privés des besoins les plus élémentaires. Ils n'ont plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments et tentent de fuir devant l'avancée et les exactions des djihadistes qui ne sont plus qu'à 8 km du centre-ville de la capitale syrienne.
Omar Waman à Beyrouth.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Un jour dans le monde, reportage à 18h36, 90 000 nouvelles entreprises, c'est l'objectif de l'année 2015 pour les autorités algériennes. L'enjeu, faire reculer le chômage et aider à la diversification d'une économie encore complètement dépendante du pétrole. Pour y parvenir, les autorités algériennes veulent s'appuyer sur les incubateurs de start-up. Il y en a 6 dans le pays. Celui de Sidi Abdella, à une quarantaine de kilomètres d'Alger, accueille de jeunes Algériens qui font le pari des nouvelles technologies. Reportage sur place de Leïla Berato.
Dans les locaux de l'incubateur de Sidi Abdallah, une trentaine de jeunes viennent travailler chaque jour. Le premier couloir est pour ceux qui viennent d'arriver au programme session de formation sur la gestion d'entreprise et coaching personnalisé.
Si ton développeur est plutôt arabophone, qu'il y a des charges, va être plus arabophone que francophone.
Cet incubateur nous offre l'opportunité de développer nos projets dans les TIC avec un accompagnement qui est très intéressant puisque ça ne ressemble pas à une école. Nous avons des coachs qui ont déjà eux-mêmes de l'expérience dans le terrain et qui essaient de répondre à des questions pratiques qu'on a.
Le couloir d'en face est celui des start-up. Des salles sont divisées en box. Anis travaille sur 2 ordinateurs à la fois. Dans un coin, il y a des casseroles et de quoi se faire à manger. Les journées sont longues, mais cet ingénieur en informatique de 29 ans tente de lancer un projet qui corresponde à sa passion, créer des jeux vidéo publicitaires.
Étant étudiant, on avait organisé des concours de développement de jeux vidéo. Ça a eu un effet très positif. On a eu plein de participants. La finale était grandiose. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une entreprise et d'exploiter le potentiel et de créer de nouveaux métiers dans ce domaine qui n'existait pas avant et d'exploiter un truc qu'on aime faire. On essaie de gagner notre vie à travers une activité qu'on aime bien faire.
Est-ce que vous avez l'impression que cet incubateur, ce genre de dispositif, c'est quelque chose de positif pour le pays ?
Ben bien sûr, c'est, si on veut créer des start-up, créer des valeurs ajoutées, créer des postes d'emploi, ben, c'est le moment et c'est l'endroit idéal.
Un peu plus loin, Teyam Essaoudi fait partie de l'équipe de EcoStat. Sur sa table, un ordinateur portable, un téléphone fixe et un fax. Peu de matériel, mais un atout selon elle, la proximité d'autres entrepreneurs.
On est spécialisé dans les données économiques et statistiques. Nous avons une interface sur Internet. On a un site web dans les 3 langues, français, anglais, arabe. On est bien entouré, disons, et on s'entraide. Par exemple, si on a besoin d'un service d'une autre start-up dans un autre domaine, par exemple, maintenance informatique ou autre chose, c'est juste à côté. Donc ça aussi, c'est bien.
Après 30 mois d'accompagnement, les jeunes entrepreneurs se lancent seuls, comme Yassine Yadouz. Le projet de ce financier de 28 ans n'a pas encore pu aboutir, mais son entreprise est malgré tout une réussite.
À l'époque, je voulais lancer ma boîte dans le e-commerce. Actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est limité par rapport au paiement en ligne. C'est ce qui limite toutes les boîtes qui se lancent actuellement. Mais on est en train de réfléchir à une certaine manière de revoir le modèle économique pour pouvoir proposer cette solution et l'adapter au modèle économique algérien aussi. La boîte, elle emploie 12 personnes. Et on est toujours en recrutement constant parce que derrière, on a développé aussi quelques activités qui touchent au web et à la communication.
En 5 ans, 76 projets ont été lancés et 20 entreprises ont été créées à Sidi Abdallah. D'ici quelques semaines, de nouveaux porteurs de projets arriveront avec un objectif, créer du contenu pour applications mobiles.
Leïla Berato en Algérie.
Thanks so much for that report.
18h40, partout ailleurs, piloté jusqu'à vendredi par Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, Panama et la Caroline du Sud.
Oui, commençons par le Panama et ce qui ne manquera pas de tourner bientôt en boucle sur les chaînes du monde entier, à savoir la rencontre et donc la poignée de main qui devrait l'accompagner entre Barack Obama et Raúl Castro, le président cubain. Alors, cette poignée de main aura lieu au sommet des Amériques, ça se passera à Panama City, où se réunissent à partir de vendredi, l'ensemble des leaders des deux Amériques, du Nord et du Sud, et tout est historique dans cette rencontre. Imaginez, ça fait plus de 50 ans que les deux pays, qui je le rappelle sont quasi frontaliers par la mer, ne s'étaient pas parlé directement. Donc tout est calculé au millimètre et pourtant on n'est même pas sûr que la fameuse poignée de main sera au programme. Alors, pour reprendre le fil des événements, tout a commencé en décembre dernier par un communiqué conjoint des deux présidents cubains et américains. Quelques jours plus tard, le 20 décembre, Raúl Castro ajoutait cette déclaration.
Saludamos.
Nous saluons la décision du président Obama d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations des deux pays et d'introduire les changements les plus significatifs de la politique américaine depuis 50
ans.
Alors ça a l'air très solennel comme ça, ça l'était d'ailleurs, mais depuis les signes de détente se sont multipliés. Le régime castriste a libéré une partie de ses prisonniers politiques et puis les États-Unis de leur côté ont assoupli leurs restrictions économiques. Il était donc temps de passer à la séquence médiatique. C'est exactement ce qui est prévu, alors à savoir au minimum la présence des deux hommes séparés par quelques présidents sud-américains à une table de négociations, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, ou encore une photo de groupe, une simple photo de groupe, et au maximum donc la fameuse poignée de main.
Là voilà,
on ne sait même pas d'ailleurs si Barack Obama fera un autre geste, comme par exemple retirer Cuba de la liste des États terroristes. Mais comme disait François Mitterrand, vous savez, une messe est possible, c'est-à-dire une annonce est envisageable.
Pourquoi, Anthony, tant de cérémonies, tant de précautions ?
Eh bien parce que les deux hommes en ont absolument besoin de solennité, d'un peu de mise en scène hollywoodienne. Barack Obama, parce que depuis 6 ans qu'il est au pouvoir, sa politique étrangère n'a pas brillé par sa réussite. Échec en Israël, dans le monde arabe, en Libye, en Europe avec l'Ukraine et surtout en Syrie, où François Hollande lui reproche toujours de l'avoir laissé au milieu du guet alors qu'il voulait intervenir pour arrêter le massacre. Donc des roulements de tambour, des sourires et une poignée de main avec l'ennemi, de toujours, ça c'est Cuba, eh bien ça redore le blason. De la même façon, Raúl Castro tient son moment historique. En clair, il fait mieux que son grand frère Fidel. Vous savez, Raúl Castro, certains l'appellent le leader minimo, quand Fidel, lui, est le leader maximo. Ça se passe à Cuba, bien sûr. Et bien là, il gagne ses galons de chef d'État. Enfin, il y a une autre raison plus impérieuse, l'effondrement de son allié vénézuélien. Cuba dépend du pétrole vénézuélien et la chute du prix du baril est en train de ruiner Caracas. Le régime castriste n'a pas les moyens d'attendre et se réconcilier avec l'Amérique, eh bien, c'est la seule option valable.
Les États-Unis, Anthony, qui aujourd'hui se retrouvent en plus sur le banc des accusés, de quelle manière ?
Oui, encore une fois, une histoire de policiers blancs qui tirent et tuent à bout portant et dans le dos un noir. Cette fois-ci, c'est en Caroline du Sud et dans la ville de North Charleston. La scène s'est passée ce week-end et il se trouve qu'un témoin l'a entièrement filmé. Les images ont été récupérées par le New York Times et tournent depuis en boucle sur l'ensemble des médias américains. On va d'ailleurs écouter la partie la plus dramatique de ces images, les leçons plutôt, celle où Walter Scott, la victime noire de 50 ans, se fait justement tuer.
Oh shit.
Alors, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, on entend d'abord distinctement les 8 coups de revolver de l'officier de police. Oui, c'est terrible. L'officier qui s'appelle Michael Slager. On entend aussi celui qui filme avec son portable dire distinctement « Oh shit !» Alors là, ça se passe de traduction. Et enfin, on entend le policier exiger de l'homme qu'il vient d'abattre, qui est donc à terre, de mettre ses mains dans le dos. On suppose que il est mort d'ailleurs. Michael Scott était, on le sait aujourd'hui, désarmé et uniquement connu de la police pour des histoires de pensions alimentaires non versées. Alors évidemment, il faut toujours se méfier des images prises à la volée, et même si elles sont tellement accusatrices, ces images, que le policier Ferrare aux États-Unis a été immédiatement arrêté et inculpé de meurtre, c'était hier, et il risque, dit-on, la peine de mort ou la prison à vie.
Le problème, Anthony, c'est que ce n'est que le dernier épisode de violence policière à caractère racial. Ils se sont multipliés ces derniers mois, ces dernières semaines.
En tout cas, les médias en ont beaucoup parlé, effectivement. On se souvient tous de la mort de Michael Brown à Ferguson. C'était en août dernier, la mort d'un jeune homme noir sous les balles d'un policier blanc qui avait provoqué des émeutes dans cette ville du Missouri. Alors, il y a deux façons de regarder cette nouvelle affaire. On peut d'abord dire « rien n'a changé ». Et c'est vrai, à North Charleston ce week-end, comme à Ferguson cet été, une population à majorité noire subit la violence répétée d'une police à 80% blanche, c'est le cas de North Charleston. Mais il y a une autre façon de regarder ces événements, sous le prisme de l'incroyable vitalité citoyenne américaine. Je m'explique. Hier se tenaient à Ferguson les premières élections municipales depuis les émeutes. Deux conseillers noirs ont été élus. Ce qui signifie que pour la première fois de son histoire, Ferguson sera désormais dirigé à parité, 3 conseillers noirs et 3 conseillers blancs. Et moi, je préfère voir les choses de cette façon-là.
Merci Anthony Bélanger. Il est 18h46 à suivre dans Un jour dans le monde. Cinéma et Le Parmentier. Vous êtes bien sur Inter. Blur.
Herself.
Go Out de Blur sur Inter. Il est 18h51, cinéma.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Non.
Cinéma avec Mathieu Culeron, sorti en salle du premier film de Ryan Gosling, Lost River. Un film qui avait été présenté à Cannes l'année dernière dans la sélection. Un certain regard, Mathieu.
Oui, Lost River, c'est un peu le livre de contes fantasmé du jeune Ryan Gosling. L'histoire d'une mère abandonnée, Billy, qui tente de survivre avec son fils Bones dans une ville fantôme. Cette ville, c'est Détroit. Et d'ailleurs, cette ville, c'est l'un des grands acteurs de ce film, comme nous l'explique Ryan Gosling.
Lorsque j'étais enfant, j'avais une vision très romantique de la ville de Détroit, parce que je viens du Canada et que c'est la ville américaine la plus proche. Cette ville a cette histoire incroyable avec la Motown, l'industrie automobile, la techno, Eminem, les réfrigérateurs, la liste est sans fin. J'avais cette idée romantique en tête en arrivant et sur place j'ai découvert des choses très différentes, des kilomètres de pâtés de maisons abandonnés et puis dans ces maisons, des familles qui s'accrochaient à leur foyer même si autour d'eux les maisons étaient détruites ou brûlées. Ça m'a frappé et j'ai voulu en faire un film.
Quelle voix, Ryan Gosling, qui présente donc un film sur ses traumatismes d'enfant, sur ses traumatismes d'adolescent, Mathieu.
Oui, traumatisme fondateur, puisque le film s'intitule Lost River, la rivière perdue. Une vision réelle, en fait, qu'a eu le jeune Ryan Gosling lorsqu'il était enfant.
I was camping with my...
Un jour, je campais avec ma famille et j'ai vu à travers un bois un chemin qui menait droit dans une rivière. On m'a ensuite dit qu'ils avaient englouti plusieurs villes pour faire cette rivière. Mes grands-parents venaient d'une de ces villes englouties. Pour moi, l'idée de nager au-dessus d'une ville m'a terrifié et ce souvenir m'a toujours hanté depuis. Ce film, c'est un peu une façon d'exorciser cette peur.
La peur et les angoisses sont omniprésentes dans ce premier film de Ryan Gosling. Peur qui envahit à la mère de famille dans le film lorsqu'on lui propose de travailler dans un club bizarre où les gens assistent à des simulacres d'exécution. Des lieux morbides qui font penser un peu au cabaret parisien du début du XXe siècle vers Pigalle où l'on pouvait boire dans un cercueil ou encore s'asseoir à côté d'un squelette. Et donc j'ai demandé à Ryan Gosling si ces endroits avaient pu l'influencer. Écoutez.
Oui, je me suis effectivement renseigné sur ces lieux pour le film. L'idée du film était que dans ces lieux abandonnés, des gens essaient d'en attirer d'autres avec des intentions obscures. Je me suis donc mis à rechercher des lieux qui avaient pu accueillir ce genre de fantasmes morbides. Et c'est là que j'ai découvert toutes ces scènes à Paris. Le théâtre du Grand Guignol, ce café appelé l'Enfer et la Taverne de la Mort. Tous ces lieux avec des thèmes macabres. Donc oui, on a été très inspirés par ces lieux parisiens. Par exemple, la façade du club dans lequel va travailler Christina Hendricks dans le film a été très influencée par la façade de ce café appelé l'Enfer.
Voilà Ryan Gosling et ses cabarets de l'enfer que vous pouvez retrouver dans son premier film, Lost River, sorti aujourd'hui au cinéma. Merci Mathieu Culeron.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire? Fort est le chef tant qu'il gagne.
Ça, on peut être d'accord là-dessus.
Je me rallie à cette opinion.
Ah, vous êtes content?
Ah, je suis heureux.
Sur France Inter.
Il est fou de joie, l'édito d'Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Dans la série Carnet de voyage, aujourd'hui, Moscou.
Oui, voici venu avec le printemps le temps des voyages en Russie. Après la Syrie, nos parlementaires préférés en goguette ont décidé de se rendre au pays de Vladimir Poutine. C'est Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger, qui le dit dans un beau communiqué. Le co-président de l'association Dialogue franco-russe annonce qu'une délégation de 17 députés et sénateurs se rendra à Moscou du 8 au 10 avril sur l'invitation de la Russian Peace Foundation. La paix, ces voyages chez l'ennemi sont toujours faits pour défendre la paix. Les voyages en Russie sont une habitude bien ancrée en France. Il y eut celui de Gide en 1936 et son retour du RSS, première esquisse lucide de critique de l'URSS. Il y eut les voyages d'Aragon qui chanta si bien Elsa Triolet, mais jamais si grand génie littéraire ne fut aussi aveugle. Sur le stalinisme, lui qui écrit un poème inénarrable, « Vive le Guépéou » en 1931. Mais en cette année 2015, tout le monde se presse de nouveau au portillon du Kremlin. Le 9 mai prochain, pour fêter les 70 ans de la victoire sur les nazis, Poutine recevra le très recommandable Kim Jong-un, chef leader nord-coréen. Mais aujourd'hui, l'autre, c'est Tsipras, Alexis Tsipras, notre premier ministre grec préféré, qui joue contre l'Europe en tentant de la contourner par Moscou. Alexis Tsipras, Nicolas, espère obtenir une levée de l'embargo russe sur ses olives, feta et autres produits agroalimentaires. On le saura demain après une visite avec Medvedev. La Grèce devrait aussi obtenir une ristourne sur le gaz russe en échange de son soutien au projet Turkish Stream, un nouveau pipeline destiné à livrer l'Europe en gaz, mais en courtant l'Ukraine. Et Poutine vient de le faire miroiter en conférence de presse, nous indique Isabelle Mandreau, notre correspondante à Moscou. Distribuer des petits cadeaux pour mieux diviser les Européens, c'est le petit jeu russe. L'embargo à la carte, voici la nouvelle invention de Poutine. Ainsi, d'autres pays amis pourraient bénéficier de la mansuétude russe, les Chypriotes faillis, les Hongrois autoritaires de Viktor Orban. Autant d'idiots utiles de Poutine qui déplorent qu'on n'ait pas bien pris en compte pendant la crise ukrainienne les arguments bien fondés de Moscou. Grâce à ces idiots utiles, donc, Poutine espère briser le front des Européens qui doivent prochainement renouveler leurs sanctions anti-russes. Avant le voyage de Moscou, les Européens l'avaient bien vu, ils ont mis en garde Tsipras. Le président du Parlement de Strasbourg, Martin Schulz, a prévenu qu'il jugerait, je cite, « inacceptable » toute tentative d'Athènes de revenir sur la politique européenne commune vis-à-vis de la Russie en échange d'une aide. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ni être naïf comme un grec. Les aides russes, c'est le miroir aux alouettes. Les Chypriotes n'ont pas été sauvés par Moscou lorsque leurs banques ont fait faillite en 2012, mais par l'Europe. Les Grecs le seront encore moins, surtout avec l'effondrement des recettes du pétrole qui limite terriblement les moyens financiers de Moscou. Croire que Poutine va financer la Grèce à la place des Européens, c'est croire au grand soir en 2015, bien improbable. D'ailleurs, Tsipras n'a demandé aucune aide financière à son hôte Poutine. De ce fait, un scénario est envisageable, celle d'un Tsipras qui fermerait les unes après les unes toutes les options, qui ferait le tour du monde comme il le fait, du FMI à Moscou pour trouver bonne âme pour le subventionner. Mais lorsqu'il aura épuisé tous les recours, il faudra se rendre à l'évidence. There is no alternative, il n'y a pas d'autre politique possible, Nicolas. Si les Grecs veulent rester dans l'euro, ils devront travailler avec les Européens et revenir sur les plus insensés de leurs promesses électorales. C'est le rêve grec, le chemin de la sagesse passe peut-être par Moscou.
Voilà la chronique d'Arnaud, l'édito d'Arnaud Le Parmentier pour réagir à vos chroniques et à vos éditos. Je recommande Twitter. C'est quoi encore votre adresse, Arnaud, sur Twitter?
@arleparmentier.
Eh ben voilà, parce qu'en général, elle ne laisse personne indifférent.